Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cet été, dans Histoire de savoir, sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, dans Histoire de savoir, donc vous allez pouvoir retrouver des podcasts qui ont été réalisés par des étudiants et des étudiantes en éducation spécialisée de la H2B de Fray. Et donc tout au long de ces écoutes, ils et elles vous feront découvrir le métier de l'éducatrice spécialisée en accompagnement psychoéducatif, et tout ça à travers différents concepts spécifiques du métier. Alors ça peut aller du mentor en passant par le référent, l'implication ou encore l'engagement. Je vous souhaite un très bel été et une bonne écoute.
Bienvenue dans ce podcast réalisé par Maureen, Eduardo et Alice. Dans ce podcast, nous allons interroger différentes personnes sur la question du référent. Mais que ce terme loufoque signifie? À quoi le raccroche-t-il? Commençons par interroger le grand public afin d'éclairer nos lanternes.
C'est quoi pour vous un référent?
Un référent, c'est quelqu'un qui aide, qui est là pour aider la personne en stage.
Qu'est-ce qu'un référent pour vous?
Un référent? C'est dans quelle situation, dans quel cas?
C'est vous qui déterminez.
C'est quelqu'un à qui on fait référence. Donc, si je suis en stage, par exemple, je vais aller voir mon référent, entre guillemets, comme mon maître de stage, quoi.
Est-ce que vous êtes une personne référente?
Certains se référencent à moi, je pense, dans le cadre de mon taf étudiant, vu que ça fait 4 ans que je suis là.
Avez-vous un référent?
Non.
Même pas dans votre travail?
Non.
Quelles sont pour vous les missions d'un référent?
Les missions d'un référent? Oh putain, c'est sérieux moi.
Ça peut être à votre travail, ça peut être que vous connaissez autour de vous.
Le but d'un référent, c'est d'être un peu le supérieur et d'encadrer, on va dire. Oh putain, j'arrive plus à parler.
Ou est-ce que vous avez un référent par exemple?
Moi j'ai un référent, oui. Après, ouais, je le vois 2 fois et en fait, il me sert juste à savoir si tout se passe bien dans mes études, quoi.
Est-ce que pour vous, le référent est-il appliqué seulement au milieu social?
Pas forcément.
Dans quel domaine pourrait-il être appliqué, par exemple?
Dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine, dans plein d'autres domaines.
Est-ce que vous êtes un référent?
Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois.
Ouais. Êtes-vous un référent pour quelqu'un dans la vie?
Non.
Savez-vous un peu ce que c'est un référent?
Non plus.
Est-ce que pour vous, le référent, il est utile ou accessoire?
Utile.
Vous savez dire un peu pourquoi?
Pour moi, c'est quelqu'un qui s'occupe, quelqu'un qui aurait la parole pour une autre personne, donc oui, je dirais que oui.
Comme vous venez de l'entendre, la grande majorité des personnes ne connaissent pas vraiment la signification du mot référent. Et c'est normal. Mais vous, est-ce que vous sauriez l'utiliser? Restez bien avec nous, car on va lever le voile sur ce mystère. Et pour ça, quoi de mieux que de donner la parole à des professionnels de terrain directement concernés par le sujet? Place maintenant à leur éclairage passionnant. Pouvez-vous vous présenter?
Donc, je m'appelle Kathleen, je suis assistante sociale dans un hôpital psychiatrique depuis près de 4 ans maintenant.
Je m'appelle Matteo Kershon, je travaille à l'Athénée Royal de Woulé-Saint-Lambert en tant qu'éducateur.
Je m'appelle Gaëlle et je travaille dans le parc d'attractions Walibi Belgium.
Que signifie le référent dans votre pratique professionnelle?
Donc moi, je pense à 2 choses. La première, c'est qu'en tant qu'assistante sociale, on peut dire que je suis la référente au niveau social des 24 patients. Mais la chose qui me semble la plus importante, c'est que chaque patient a un référent, donc un membre de l'équipe. Ça va vraiment être une personne ressource. À savoir que du coup, les hospitalisations chez nous sont 9 mois, donc ça va vraiment être la personne de référence chez qui le patient va aller quand ça va moins bien, quand il a des demandes mais qu'il n'ose pas me les faire ou les faire à la psychologue. Ça va être une personne qui va le suivre durant ces 9 mois, qui va vraiment l'accompagner aussi dans ses démarches. Donc voilà, moi je dirais que c'est vraiment une personne ressource et une personne de référence pour le patient.
Alors, je suis éducateur référent des élèves de 2e général et 2e S. Ça veut dire que je m'occupe de leur suivi scolaire, que je fais attention à leur présence, à leur comportement, et je suis en communication quasi constante avec leurs professeurs et leurs parents. Et je transmets les infos qu'il y a à savoir aux personnes concernées.
Pour moi, un référent, c'est une personne qui est là pour répondre à mes questions, m'aider dans mon travail journalier, qui a une meilleure connaissance ou en tout cas une connaissance plus approfondie de mon poste et donc qui peut m'aider au quotidien à être meilleure et plus performante.
Quelles sont les principales missions d'un référent ?
C'est vraiment la personne qui va accompagner le patient dans la concrétisation de son projet de A à Z. Ça va être la personne qui va travailler avec le patient sur la question de l'autonomie, sur la question de l'hygiène, sur la question des tâches quotidiennes. Elle va vraiment être la personne qui va le stimuler un maximum. Ça va aussi être la personne de confiance, la personne qui va recadrer quand parfois c'est nécessaire, quand on va faire une concertation pour faire un peu le topo sur la situation du patient, mais on va faire en sorte que le référent soit là pour qu'il puisse amener un peu son point de vue. Je pense que la personne référente, une de ses missions, c'est aussi d'être la plus proche possible du patient, parce que finalement, c'est pas toujours évident de raconter sa vie, de raconter ses difficultés. Et donc, ça va permettre de tout déposer auprès de la personne référente. Donc voilà, je dirais une mission de personne de confiance.
Alors, la première, c'est donc faire attention à la présence au retard. Donc, essayer de maintenir un contact avec l'élève pour que si jamais il s'absente, qu'il essaye de prévenir, de ramener des motifs ou des certificats médicaux et qu'il ne soit pas en retard, qu'il ne brosse pas les cours. Voilà, sa présence à l'école, qu'elle soit le mieux possible. Le deuxième, c'est créer du lien. Donc, ce serait en contexte, ce serait du coup arriver à créer une relation avec l'élève pour qu'il nous fasse assez confiance et qu'il puisse du coup venir nous voir quand ça va pas, venir quand ça va aussi, puisque ça fait du bien de savoir que les élèves vont bien. Si jamais il y a un souci avec un professeur, qu'il a assez confiance en nous pour venir nous en parler et pas qu'il règle ça tout seul et qu'il se mette en porte-à-faux. Et le dernier point, ce serait maintenir un bon contact avec les parents, qu'ils arrivent à nous faire confiance et qu'on forme une espèce d'équipe, parce que le travail que j'effectue avec ces jeunes dans l'école, faudrait qu'il soit continué quand ils rentrent chez eux à la maison, pas qu'on leur inculque des valeurs, une façon d'agir, pour qu'une fois qu'ils rentrent à la maison, que tout soit mis à la poubelle et qu'on doit à chaque fois recommencer de 0 chaque jour.
Pour moi, il y a le côté professionnel où le référent doit pouvoir, comme je disais pour la question précédente, être là pour répondre à mes questions, m'aider et m'éclairer quand il y a quelque chose que je ne comprends pas. Mais il y a quand même un côté personnel où le référent doit pouvoir te comprendre et savoir comment tu réagis face à certaines situations pour te permettre aussi de travailler dans les meilleures conditions.
Qu'est-ce que le référent apporte à la personne accompagnée dans votre poste ?
Je dirais que ça renforce le lien de confiance, comme je disais tout à l'heure. La personne va beaucoup plus vite se confier. C'est vrai qu'elle va très rapidement demander des entretiens d'écoute, de soutien quand son référent sera présent. C'est vrai que parfois ça permet de décaler les choses. Si moi j'essaie de savoir ce qui va pas, la personne ne va pas forcément me le dire. Et quand son référent va arriver, ça va permettre de décaler les choses. Et là, on va obtenir quelque chose du patient. On va se rendre compte qu'en fait, ça allait pas pour telle et telle raison. Et donc, comme je le disais un peu tout à l'heure, c'est vraiment cet intermédiaire et c'est vraiment bénéfique pour le patient. En fait, c'est vraiment un lien particulier. Et ce qui arrive souvent aussi, c'est que du coup, quand les personnes sortent de leur hospitalisation, c'est quelque chose de très compliqué de rompre un peu ce lien-là. Et donc, ça leur arrive souvent de revenir après coup, de remercier le référent pour ce qu'il a fait et de maintenir le lien à travers des coups de téléphone pour juste dire tout va bien. Et donc on sent que c'est quelque chose de très important, que ce soit pendant leur hospitalisation mais aussi après leur hospitalisation.
Ça lui apporte une sécurité dans le sens où il saura toujours que, en tout cas je parle pour moi, il saura toujours que je suis là si jamais il ressent la moindre difficulté ou même juste le besoin de parler, de vider son sac, d'avoir une oreille qui est là pour l'écouter et le conseiller s'il en a besoin.
Ça apporte une confiance en soi supplémentaire, plus de confiance en soi, plus de confiance en son travail. Et puis justement, quand il y a un petit doute, se dire « Ah, mais en fait, mon référent va pouvoir m'aider, va pouvoir m'éclairer, et je vais poser une fois la question et les prochaines fois, ça ira parce qu'on m'a aidé à élucider ce questionnement ou cette petite incertitude que j'ai eue. »
Avez-vous un référent ? Si oui, quelle relation avez-vous avec ?
Oui, alors c'est plutôt des personnes référentes, mais dans le cadre de l'organisation du service et donc du travail, on a des référents, bah, par exemple on a des alpagas, donc il y a des référents alpagas pour toutes les questions qui tournent autour de ça, autour de leur prise en charge. On a un référent isolement aussi, pour tout ce qui est contention, mise à l'isolement lors de situations de crise. On a une référente activité, donc vraiment une coordinatrice qui gère toutes nos activités en interne. Donc ça va vraiment être par thématique, j'ai envie de dire. Et donc je sais que si j'ai une question bien précise à ce sujet, bah, c'est vers ces référents-là que je vais me tourner. Sinon, bah, référence pour moi vraiment, je dirais que c'est bah, ma chef infi, qui est du coup ma N+1 et donc ma supérieure, qui est vraiment la personne qui va écouter en cas de difficulté et qui va trancher si c'est nécessaire ou si à un moment il y a... Si c'est plus compliqué, en tout cas, c'est elle qui tranchera et qui prendra la décision finale.
Alors tout d'abord, j'ai un référent au travail, c'est la directrice adjointe qui est en charge du coup de l'équipe d'éducateurs. C'est elle qui fait nos horaires, c'est chez elle qu'on doit se rendre si jamais on rencontre des problèmes avec un élève ou avec un collègue slash professeur, etc. Donc c'est la personne d'autorité chez qui on se retourne en cas de problème ou de question. Et la deuxième référence que je pourrais avoir, c'est du coup la personne qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est un éducateur que j'ai rencontré dans une école que j'ai fréquentée. C'était l'école où j'ai fait de ma première et ma troisième secondaire. C'est un éducateur que je n'ai jamais eu, mais que j'ai toujours vu dans les couloirs, etc. C'est un éducateur qui avait la faculté d'être copain, entre guillemets, avec tout le monde. Ça veut dire que peu importe qu'on soit un intello, qu'on soit un élève à problème, qu'on soit une personne, entre guillemets, lambda, il arrivait à avoir une discussion avec nous, une discussion vraiment intéressée. Il arrivait à tirer le meilleur de nous, sans forcément nous connaître réellement. Et ça paraissait tout le temps, enfin toujours intéressant pour lui d'apprendre à nous connaître. Peu importe qu'on soit ses élèves ou non, s'il arrivait à avoir une discussion avec un élève de première et un élève de réto. Et donc ça, c'est quelque chose que j'admire chez lui et que j'aimerais un jour pouvoir atteindre. Mais c'était pas un éducateur cool. S'il savait être méchant quand il le fallait, il savait être sévère quand il le fallait. Mais c'était vraiment la personne que tout le monde aimait et que tout le monde respectait, sans forcément craindre. Mais voilà, c'est vers cette référence que j'aimerais atteindre.
Quand je suis opératrice, j'ai un référent direct qui a le même poste que j'ai quand je suis référente. Donc, on a une relation plutôt... on s'entend vraiment très bien et on arrive à bien communiquer pour pouvoir justement avoir un bon suivi des autres opérateurs, de nos collègues et savoir comment gérer au mieux l'équipe, que ce soit lui ou moi qui soit référent ce jour-là. Et quand je suis référente, j'ai deux référents au-dessus de moi. Et pareil, on a une plutôt bonne relation, une relation de confiance. Et je trouve que c'est ce qui est le plus important dans une équipe comme celle que j'ai, où on est peu nombreux. C'est la confiance, la communication. Et si ça, c'est respecté, c'est vrai qu'on peut déjà pas mal avancer.
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre rôle de référent ?
Ben, alors je dirais qu'être référent, ça demande quand même un temps considérable. Il faut savoir que ben, ces personnes, elles ont quand même leur travail à faire. Hein. L'infirmier, ben, il doit continuer de distribuer les médicaments. Surtout qu'on demande quand même au référent d'évaluer l'autonomie du patient. Donc ce qui est demandé, c'est que tous les 3 mois, il y a un bilan d'autonomie qui soit fait avec le patient. Ça permet de mettre un peu en évidence les facilités, mais aussi les difficultés. Et ça, ça prend du temps, ne serait-ce que de préparer le bilan, de le mettre en commun, de faire un peu le topo après, le débriefing. C'est aussi tous les entretiens d'écoute, de motivation dont je parlais avant, ça prend du temps. Donc c'est une charge de travail supplémentaire. Et donc c'est vrai, pour être tout à fait honnête, qu'il y a des collègues qui se déchargent un peu de ça et qui essayent d'avoir le moins de référents possible parce que parfois, c'est juste pas conciliable. Notamment les infirmiers qui ont quand même un travail très très important, c'est pas possible pour eux de se surcharger encore avec ça, même si c'est clairement bénéfique pour le patient. Ce que je dirais aussi paradoxalement à tout à l'heure, c'est que parfois la question du lien, elle est un peu trop importante. Aussi bien pour le patient que le professionnel, c'est pas toujours évident de mettre des limites. On pourrait avoir un exemple concret. J'ai déjà eu un collègue, sa patiente est sortie et il continue d'aller la voir à l'extérieur, donc elle a été en maison de repos. Et il continue d'aller la voir tous les X mois parce que c'est très compliqué pour lui. Après, c'était un cas exceptionnel. Madame, elle était restée hospitalisée près de 8 ans dans notre service. Et donc, il y a vraiment un lien qui s'est créé et il n'arrive pas à décrocher. Donc ça, parfois, c'est quand même des choses dont on doit discuter en réunion, de savoir jusqu'où on va dans notre accompagnement. Une autre difficulté par rapport au lien, c'est qu'à l'inverse, ça peut ne pas du tout matcher. Et donc là, on est amené à devoir changer de référent en se disant « Ok, là, ça va pas, c'est contre-productif, on n'avance pas et ça met vraiment un frein dans le projet de la personne. » Et donc là, on essaye de se remettre rapidement en question.
Alors, pour moi, les principales difficultés sont la communication avec les parents, dans le sens où arriver à gérer leurs émotions et qu'ils comprennent le message que je veux leur transmettre. Car la grosse majorité des parents d'élèves qui sont dans notre école sont issus de familles qui n'ont pas fait de grandes études pour la plupart, et donc leur capacité à comprendre les mots est assez compliquée, et donc faut qu'on utilise des mots assez simples, et dans le feu de l'action c'est compliqué de gérer cela. Le second point, c'est gérer mon calme vis-à-vis des élèves et de leur comportement, insultes, bagarres, etc., vis-à-vis de moi, parce que j'ai pas mal de fois durant la journée où je suis en contact constant avec les adolescents, et donc c'est dans leur nature, pour eux c'est basique d'insulter tout le monde à tout va, et donc se prendre une volée d'insultes de 8h à 16h, à un moment donné c'est assez compliqué de garder son calme, et voilà. Et le dernier point, ce serait la relation professeur-éducateur, car une grosse majorité des professeurs avec lesquels je travaille ont encore cette vision de l'éducateur qui est un pion, qui est juste là pour garder les élèves et qui, du coup, ne pense pas aux répercussions. Ça veut dire qu'une grosse majorité d'entre eux vont renvoyer des élèves de leur cours pour une raison qui est futile sur le coup, qui du coup, ils nous envoient l'étude, mais des fois, on se prend des études avec 80, 90 élèves, et si en plus, on se ramasse des élèves qui sont exclus pour des raisons futiles, ça augmente vite le nombre, et ça devient très très vite compliqué à gérer. Et donc, c'est cette relation avec eux qui est assez compliquée.
Alors, j'ai commencé à être référente pour la période d'Halloween, donc en octobre 2024. Et la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée à ce moment-là, c'était de la gestion des opérateurs saisonniers, donc qui sont là pour toute la saison, et les étudiants qui sont venus que pour la période d'Halloween. Et donc, faire la différence entre un nouveau à qui il faut apprendre tout et quelqu'un qui est déjà là depuis plus de 6 mois. Et parfois, c'est vrai que certaines choses me semblaient logiques pour moi et ne l'étaient pas pour eux, et donc gérer un petit peu les différences, les compétences de tout à chacun, et c'est pas parce que moi je connais que la personne en face connaît également. Ça, je pense que ça a été difficile au départ de pouvoir faire la différence entre ces points-là. Et maintenant, une difficulté que je rencontre encore aujourd'hui, c'est que j'ai un double poste, en fait, je suis en même temps référente et opératrice, c'est-à-dire qu'en fait, je remplace mon référent quand lui a un autre poste ou alors n'est pas là parce que ce sont ses jours off. Et donc, pouvoir jongler entre les deux et avoir ce côté où je suis référente responsable pour mes collègues et je suis leur collègue au même titre, sur le même pied d'égalité, je veux dire, certains autres jours. Et donc pouvoir jongler avec ces deux casquettes-là et rester toujours une référente quand je suis opératrice, mais je suis seulement opératrice, et donc parfois avoir le temps de souffler et ne pas avoir réponse à tout ces jours-là.
Et voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de ce podcast. Nous espérons avoir pu éclaircir pour vous la question du référent. Un immense merci pour votre écoute et votre attention tout au long de cet épisode. C'était Maureen, Eduardo et Alice. À très bientôt!
J'ai arrêté de croire que c'était seulement quelques ombres, quelques êtres immondes qui nous tombent dessus. Je t'ai donné ma confiance, c'est pire que d'être dans une ruelle sombre. Prise de conscience trop grande, douloureuse est là.
Ton souffle sur ma nuque résonne encore comme de la disto. Bloqué de mon corps et tu croyais à tort d'en disposer. T'as laissé à port clandestin, j'ai plus d'espace dispo. Laissant dans mon corps tes torts, tes tartes à abuser. Dispensé du devoir, mes traumas qui selon toi sont quiproquo. Et maintenant selon toi, qui prend quoi? Dispensé du devoir, mes traumas qui selon toi sont quiproquo. Et maintenant selon toi, qui prend quoi? Toujours des excuses, mon corps qui refuse. Toujours tu réfutes. Consentement exclu, maintenant je baisse plus. Maintenant je baisse plus. Toujours des excuses, mon corps qui refuse. Toujours tu réfutes. Consentement exclu, maintenant je baisse plus. Maintenant je baisse plus.
Défoncé pour oublier, retrouver les bras de Morphée. Mais maintenant c'est Médusa qui vient hanter mes pensées.
Charge mentale de prévenir tes potentielles victimes. Mais j'en ai marre de voir changer la vie que tu mènes. Trauma mon corps, trop mais vite tu te justifies. Comment t'as pu oser me dire que tu m'aimais?
J'en veux pas ta culpabilité, maintenant viens la ramasser. Tu m'as terrassé, je suis dévasté, mais c'est toi le désastre. Et t'as même pas eu l'habilité de comprendre ce que t'as laissé. Depuis nuit blanche marquée, je dors plus, je regarde les astres. Crois pas que je vais te laisser t'en sortir, t'essaies même pas de te repentir. Tout ce que tu sais faire c'est mentir, et ton déni comme seule rétention. Et si pour une fois t'essayais d'accorder ta parole à tes actions?
Toujours des excuses, encore qui refuse. Toujours tu réfutes. Consentement.